Ici, mon premier réflexe a été de fuir les Français. Parce que dans le premier appart où je suis arrivé, justement, il y avait des Français qui étaient là. Ils m'ont dit, ouais, c'est cool, on va aller garder mon contact, on va sortir, on va aller boire des verres. Je les ai jamais rappelés. Je voulais pas les rappeler, quoi, pour pas faire cette erreur. Et m'enfermer avec des Français.
Hola à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Occupation. Aujourd'hui, on voyage direction l'Espagne et plus particulièrement Madrid, la capitale. J'y suis allé retrouver Jérôme, un Français qui habite depuis 5 ans avec Los Gatos, le surnom qu'on donne aux habitants de Madrid. Du haut de ses 35 ans, avec des cheveux et une barbe déjà plus que poivre et sel, Jérôme est en train de devenir un spécialiste de l'expatriation puisqu'il a aussi vécu à Londres. Alors entre deux balades sous une chaleur écrasante dans les rues de la ville et un petit tour au resto, on a discuté de son parcours, comment vit-il les déménagements dans un autre pays, est-ce qu'il se sent espagnol, est-ce qu'il se voit rentrer un jour. Sa colocataire Christina s'est aussi invitée pour le repas et on a bien rigolé. Il y a une théorie sur l'expatriation qui s'appelle la U-Curve Adjustment Theory, attention à l'anglais, de McCormick et Chapman. En gros, je vais faire simple, ça dit qu'il y a quatre phases dans l'expatriation. La lune de miel, la crise, l'adaptation et la maîtrise. Est-ce que tu as vécu tes expatriations comme ça? Est-ce qu'il y a eu, j'arrive, je suis euphorique, après il y a un petit coup de moins bien, ensuite tu t'adaptes, et maintenant tu es génial, tu es depuis 5 ans à Madrid. Ça te parle un peu ce cycle-là ou pas?
Ça me parlais quand je suis parti à Londres. Ici en Espagne, j'ai vraiment vécu la chose beaucoup plus, de façon plus aisée. Du coup, je sais pas si c'est l'expérience de Londres, mais la phase down, non, j'ai pas, ça ne me parle pas du tout, quoi.
Tant mieux. Comment tu te sens la première fois que tu mets les pieds à Madrid ou à Londres? Tiens, on va commencer par la première parce que tu dis que la première était plus dure. Tu dis, je quitte la France, j'arrive à Londres. Premier jour, tu te dis quoi? Genre génial ou qu'est-ce que je fous là?
Bah du coup, enfin du coup c'est bizarre c'est sûr, en comparaison avec ce que je viens de dire. Mais Londres c'était beaucoup plus simple parce que du coup je suis parti avec des potes et je savais où je mettais les pieds. On avait un appart où atterrir, ce qui est pas le cas à Madrid. Je suis arrivé avec ma valise, j'avais un appart Airbnb pour une semaine et à l'arrache quoi.
Ah ouais. Et donc comment tu as trouvé un appart en une semaine?
C'est ça.
Donc c'est plus facile qu'en France pour trouver un appart si je comprends bien.
C'est beaucoup plus facile parce que du coup, ils ne demandent pas de contrat, c'est beaucoup de beaucoup aux blagues. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas autant de listes d'attente. La seule complication, parce qu'en vrai, dans l'Airbnb où je suis arrivé, ça a été, c'était un peu la surprise, entre guillemets. On était quatre personnes arrivées dans la même situation à chercher un appart. Et eux étaient déjà là. Moi, je pense que c'était un peu feignant, c'était des étudiants, ils n'avaient pas trop la motivation, mais ça faisait déjà 3-4 semaines, voire un mois qu'ils cherchaient un appart. Ils n'arrivaient pas à en trouver, parce que du coup, je suis arrivé en août, et c'était l'arrivée des étudiants, et du coup, il y avait un petit peu, c'était un peu compliqué de trouver un appart. Mais j'ai peut-être eu un peu de chance là-dessus, ou je cherchais beaucoup aussi, plus qu'eux, parce qu'ils avaient l'air plus d'aller faire la fête que...
Et là, l'expérience de Londres fait que tu étais quand même serein.
Ouais. Je sais pas pourquoi. Bah, ouais. C'est ouais, non. Du coup, je sais pas.
Ouais, tu l'as
je
vécu sais pas répondre. Moment, ouais. T'es là depuis 5 ans. On est à Madrid. Il fait très chaud. On est bien à Madrid. Y a pas de doute là-dessus. Il y a un moment quand même dans les 5 ans où t'as douté, où t'as toujours été serein.
Moi, j'ai pas douté de ma présence. J'ai pas douté de ma volonté d'être là, mais j'ai douté de ma présence. Quand vraiment, du coup, c'est pas ton pays, t'as pas ta famille pour t'appuyer, t'as pas tes amis. Et du coup, quand j'ai dû trouver un boulot, parce que du coup, mes économies s'épuisaient, c'est à ce moment-là que c'était un peu compliqué. J'étais un mois près. Si j'avais pas trouvé de boulot, j'aurais dû rentrer en quatrième vitesse.
Dans la phase d'adaptation dont on parlait, c'est quoi les éléments sur lesquels tu as senti vraiment que tu t'ajustais? Tu vois, les trucs vraiment le plus dur où tu te disais, ça, c'est vraiment pas comme chez moi. Là, on parle de Madrid. Non, mais après, tu peux me dire qu'il n'y en a pas eu.
Ouais, non, je vois. Il y a des. Entre guillemets, c'est pas des difficultés, c'est pas des grosses différences, c'est les horaires que tu as pu voir ces jours-ci.
Il faut dire que c'est en effet particulier, c'est pas un mythe, vous mangez très très tard. Mais alors, vraiment très tard.
Ouais, bah du coup, même moi, en vrai, je suis pas encore très habitué à ça. Quand on arrive à l'heure du pour manger à la pause du midi, bah, c'est pas la pause du midi. Du coup, ça creuse, ça donne très faim, quoi. Et à 2-3 heures, ouais, t'as la dalle, quoi.
Ouais, parce que donc tu manges vers 14-15 heures, quoi. Ouais. Le midi et 22 heures, grosso modo, le soir.
C'est ça.
Donc oui, il faut, en tant que touriste français, là, pendant quelques jours, c'est un temps d'adaptation. J'ai assez faim. D'ailleurs, on enregistre, je crois, vers 2 heures, quelque chose comme ça. Donc, en effet, c'est assez faim, c'est assez étrange à vivre. Si tu dois décrire la vie à Madrid, là, on est vraiment dans le général, mais parce que j'ai envie de parler un peu de la ville où on est aussi, tu décrirais ça comment, la vie ici, pas forcément par rapport à la France, d'ailleurs, mais comment tu décrirais la vie à Madrid?
Moi, je trouve qu'il fait bon vivre. Du coup, c'est une ville très accueillante. Bah, surtout en contraste avec Paris. Paris est une ville beaucoup plus belle, au niveau de l'architecture, de l'histoire, de l'art. Il n'y a pas photo. Mais alors, contraste parisien-madrilin, voilà, c'est un autre monde. C'est super facile de se faire des amis ici, ils ne sont pas fermés. C'est la fête tout le temps. Il y a vraiment une culture sociale de... Comment ça se dit
De groupe, quoi, ouais, de vie en communauté, quoi.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est vrai qu'on a vu dans la ville en se baladant qu'il y avait quand même beaucoup d'activités, beaucoup de. Alors, c'était le week-end, mais de festivals, de la musique, des sports, enfin, c'est énormément. Et tout le monde est dehors, en effet, les terrasses pour manger le soir, en effet, c'est.
À part entre 3h et 5h ou 6h où il fait très chaud, tout le monde est dehors, ouais.
Mais culturellement, on mange plus dehors?
J'ai l'impression que oui. Bah, du coup, ça coûte moins cher aussi. C'est un facteur important. Parce que du coup, en Espagne, tu ne payes pas ta bière 10 euros. C'est 2 euros.
Attention, je sens un peu le cliché de l'expatrié. 10 euros, c'est dans Paris, soir.
Oui, mais, non, mais c'est ça. Je compare avec Paris, parce que c'est là où j'ai vécu aussi. Du coup, ta bière, c'est 7 euros minimum. Dans un bon resto, bon, un resto correct, les prix sont... encore plus élevé. Du coup, en comparaison, ici, j'ai jamais fait une soirée où j'ai gâché plus de 30 euros. Et à Paris, 50 euros, c'est la normale, quoi.
On est en train de marcher dans les rues de Madrid. Il fait 37, 38 degrés, quelque chose comme ça. C'est quoi la technique de survie?
Boire beaucoup d'eau. Marcher à l'ombre. Pas faire trop d'efforts, faire des petites pauses. Je vais boire du smoothie.
Ouais, les smoothies, c'est bien, ça aide. Manger des aubergines, apparemment. Elle donne. Non, mais donc, en vrai, est-ce que t'as déjà fait la sieste quand il fait cette température-là? Parce que c'est le mythe.
Pas volontairement. Quand on tape des journées à marcher comme on a fait ce matin, ça arrive, ouais. Je pense que ça va arriver quand on va arriver à la maison. Mais non, volontairement, de me dire que c'est l'heure de la sieste, bon, c'est pas notre culture, quoi. Du coup, pas trop l'habitude.
Je suis obligé de poser la question parce que je suis français. Est-ce qu'on mange bien ici?
On mange bien, ça, il y a pas.
Il y a rien qui te manque. Voilà, je vais faire le bon franchouillard. Est-ce qu'il y a rien qui te manque? Est-ce que le vin, le camembert et tout ça te manque pas?
Bah, les premiers temps, si, mais après ça peut. En cherchant bien, il y a quelques supermarchés qu'on vend. Du coup, de temps en temps, je me fais plaisir, je m'achète un camembert. Par contre, les mentales, le comté, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Le comté, je crois que j'en ai pas trouvé. Le vin, bah, vin français, il y en a pas. Du coup, j'étais un peu perdu sur les cépages, parce que du coup les cépages ici sont différents et je les connais pas. Mais avec le temps, j'ai découvert quelques petits bons vins espagnols aussi.
Maintenant que tu es adapté justement au vin espagnol et au reste, est-ce que tu te considères comme un madrilène?
Non, pas trop, parce qu'en vrai, il n'y a pas de pur. Parce que même à Madrid, du coup, Los Gatos, il y en a très peu. Enfin, je crois que pour se considérer madrilène, ici, officieusement, c'est genre, faut être madrilène sur plus de 3 générations. Et du coup, personne. C'est comme à Paris, enfin, tout le monde vient ici pour travailler. Du coup, tu as des gens de toutes les régions d'Espagne. C'est aussi le plaisir d'ici. Il y a un mélange culturel à Madrid qui est assez important.
Quand tu es arrivé, toi, à Madrid, tu connais personne?
quand je suis vraiment arrivé tout seul, sans avoir pris de contact avec personne. Par contre, si je connaissais des gens à Londres, du coup, j'ai pas connu d'anglais, mais j'ai connu des Espagnols qui étaient revenus à vivre à Madrid. Du coup, j'ai attendu quelques temps avant de reprendre contact avec eux, mais je connaissais des gens et j'avais connu la ville avec une, grâce à une Espagnole avec qui je suis sorti, mais à Paris, qui elle vivait à Madrid. Et du coup, j'ai pu connaître un petit peu la ville et avoir des conseils avant d'arriver.
Tu arrives à Madrid, à la base, c'est pour faire une école de photo, même s'il y a eu des changements de plan, mais c'est ce que tu finis par faire en premier, on est d'accord?
C'est ce que je finis par faire en premier. Comment t'appelles ça? En sensa, quand t'es sensé. Sensa, toi. C'était le plan le plus sensé, le plus...
Réfléchi.
C'est ça, réfléchi. Okay. Putain, merci. C'est ça, c'était le plan le plus réfléchi et le meilleur à faire, en fait, parce que le plan de base, c'était pas rester autant de temps. C'était vraiment... Ouais, je t'avais déjà expliqué, mais du coup, je le répète ici. C'était passer mon permis moto, parce que du coup, c'était moins cher, et vraiment profiter, faire de la photo, faire un tour d'Espagne, et revenir en France, prendre une petite année sabbatique. Et du coup, le plan réfléchi, plus intelligent, c'était de faire, au lieu de gâcher cette thune, l'investir dans une école photo, pour avoir un diplôme, et vraiment, en plus, c'est une très bonne école photo, réputée mondialement. Et moi, du coup, c'était mon meilleur choix.
L'école, les études en général, pour l'expatriation, c'est une des armes absolues, j'ai envie de dire, pour bien s'intégrer. Parce que du coup, tu rencontres plein de gens.
Du coup, ça m'a bien aidé aussi à m'intégrer. Ça, c'est clair. Après, la moyenne d'âge était un peu jeune. Il y avait quelques vieux, mais la moyenne d'âge était très jeune. Du coup, tous mes potes, même ceux toujours aujourd'hui, hein, mes potes ont en général 10 ans de moins que moi. Du coup, ça m'a fait un petit peu un choc. Enfin, toi, t'es un peu comme moi, on n'est jamais vraiment sorti en boîte. Mais du coup, j'ai dû reprendre ce rythme presque adolescent. On allait en boîte, en karaoké, on buvait pas mal. Mais du coup, socialement, ouais, ça m'a beaucoup aidé à m'intégrer, clairement.
Les sorties, les rencontres, tout ça, ça s'est fait facilement, du coup. En partant de l'école, tu peux, tout ça, ça se fait naturellement, en fait.
Ça se fait assez naturellement, ouais. En plus, c'est ça, c'est des gens très ouverts et venant de l'étranger, en plus, ils t'excluent pas, c'est plus l'attitude opposée.
Tu dis, ils t'excluent pas en étant étranger. Toi, tu t'es toujours senti bienvenu en étant français, en Espagne, on t'a jamais...
Non, ça, il n'y a pas vraiment pas de souci, surtout en étant français. Après, je pense qu'il y a un peu... C'est comme en France, il y a une partie de la... population un peu raciste, mais c'est plus envers des latins, ceux d'Amérique latine.
D'accord.
Voilà, il y a une partie un peu raciste, mais voilà, c'est comme partout, il y a un petit ce pourcentage-là. Mais du coup, en étant français, il n'y a vraiment pas de souci.
Un tout petit peu sur les deux options, mais donc tu as vécu en coloc à Londres, ici tu es arrivé tout seul. Le plus simple pour s'intégrer, c'est d'arriver seul, de bosser ou d'être en école et puis de s'intégrer petit à petit. Ou alors est-ce que c'était plus facile quand tu es en coloc et avec d'autres gens et on se soutient les uns les autres?
Du coup, c'est un peu différent ce que tu te sens. Le problème, c'est que tu ressens pas le besoin de t'intégrer quand tu viens avec des potes. Et du coup, en plus, on pratiquait pas beaucoup l'anglais, on sortait avec des Français et des Espagnols, du coup, qu'on a connus là-bas. Mais du coup, connaître des Anglais, ça m'est pas arrivé en presque 2 ans en Angleterre.
T'as pas de potes purement anglais, en fait?
Non. Mais après, c'est un peu comme... J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus fermés aussi, du coup, c'est un peu plus compliqué. Les gens très ouverts, festifs, qu'on rencontrait là-bas, c'était des Italiens, des Espagnols, ceux qui venaient de l'étranger, qui avaient l'habitude de devoir s'intégrer. Après, quand tu as ton cercle d'amis, c'est comme partout, quoi. C'est un peu plus compliqué de s'ouvrir au monde extérieur.
Toi, tu préfères quoi au final? Tu te dis, est-ce que ça aurait été un peu plus enrichissant de ne pas être avec des Français tout le temps?
Ah bah c'est ça, clairement. Enfin, ici, mon premier réflexe, ça a été de fuir les Français. Parce que dans le premier appart où je suis arrivé, justement, il y avait des Français qui étaient là. Ils m'ont dit, ouais, bah, c'est cool, on va aller garder mon contact, on va sortir, on va aller boire des verres. Je les ai jamais rappelés. Je voulais pas les rappeler, quoi, pour pas faire cette erreur. Et m'enfermer avec des Français, enfin, je le vois au premier étage ici, il y a des Français qui avaient un cabinet, ils restent contre Français. Enfin, c'est vraiment une erreur que je voulais pas reproduire à nouveau, quoi.
Tu dis erreur, quoi. Pour toi, c'est carrément.
Ah, bah oui, enfin, si tu changes de pays, c'est vraiment pas pour retrouver tes racines et reprendre tes habitudes de Français, quoi. Enfin, ça a pas vraiment de sens. Mais pour moi. Fin...
Oui, il y a des gens pour qui c'est quand même un petit matelas de confort et où ça rassure, en tout cas, quoi. Toi, t'avais pas besoin de ça.
Non, c'est vraiment ce que je cherchais. J'avais besoin de changer d'idée.
Et maintenant, tu parles super bien espagnol. Tu parlais déjà bien espagnol, je suppose, avant de partir. Et maintenant, on l'entend. Des fois, tu cherches même un petit peu tes mots. Ça fait 5 ans et tu parles plus en français. Tu me l'as dit quand je suis arrivé. Tu m'as dit, j'ai plus l'habitude de parler français parce que je parle qu'en espagnol. Mais du coup, tu dois te régaler, quoi. C'est un plaisir de parler espagnol tous les jours.
Bon, oui, en plus, c'est une langue. C'est une belle langue. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup l'espagnol. J'ai toujours aimé l'espagnol. Et bon, du coup, je sais pas si je le parle très très bien. J'ai toujours des petits problèmes d'accent et de conjugaison de temps en temps. Mais ouais, je cherche mes mots en français parce que du coup, il y a plein de faux amis. Et du coup, bah, quand t'as pris l'habitude de. Déjà, t'as dû changer tes premières habitudes la première fois quand tu perds le français. Bon, quand t'apprends l'espagnol, et du coup, ça te. Bah, du coup, t'apprends une langue et tu dois te forcer à perdre les faux amis. Et du coup, les retrouver. Dans le sens inverse, c'est assez compliqué.
Ah oui, tu recherches les mots en français dans l'autre sens, quoi.
Parce que du coup, c'est pas apprendre un mot et le traduire. C'est vraiment perdre des habitudes de langage. Et quand t'as perdu ces habitudes de langage, c'est compliqué de les reprendre.
Mais je vois, j'avoue que je suis étonné depuis qu'on parle, que tu cherches beaucoup de mots en français. Mais tu mets pas, par contre, de mots espagnols dans tes phrases en français. Tu fais pas du Vandamme, tu vois.
Je le fais un peu. C'est comme ce que je disais quand je cherchais... Le mot réfléchi, sensato, du coup, c'était, dans ma tête, c'était sensé, sensato sensé. Et du coup, c'est pas la traduction exacte, mais c'est des petits mots qu'on change.
Ouais, ton cerveau, il est en espagnol, quoi, maintenant, en fait.
Ah oui, bah ça, clairement, je pense en espagnol.
Faut que tu re-switches, quoi. Ah oui, tu penses en espagnol.
Ouais, ouais.
Quand t'arrives là, on va passer sur des trucs un peu plus matériels, très pratiques. Mais quand t'arrives là, t'arrives pas avec tout ton appart parisien sur le dos. Concrètement, tu dois racheter des trucs à chaque fois que tu déménages. T'es allé à Londres, tu fais pas Londres-Paris, Paris-Madrid avec tous tes trucs sur le dos comme on ferait un déménagement d'une région à l'autre en France. Comment ça se passe? T'as un minimum vital avec lequel tu voyages toujours à chaque fois que tu t'expatries ou alors tu rachètes tout à chaque fois? On prend un exemple concret. Hein. T'es arrivé avec quoi à Madrid?
À Madrid, mon minimum vital, je te dirais que c'est mon appareil photo, mon matériel photographique. C'était un sac à dos complet avec tout ce que je pouvais ramener et une valise avec un peu de fringues. Et du coup, ce que j'ai dû racheter, ce qui m'a fait mon premier vrai achat que j'ai fait ici, c'était une guitare. Parce que ça me manquait un petit peu, je connaissais pas grand monde. Et du coup, j'ai acheté une guitare le premier mois quand je suis arrivé.
L'ordi, t'avais par exemple? Ça, il voyage?
L'ordi aussi, oui. Ça fait partie entre guillemets de mon matériel photographique.
Ah oui,
je suis obligé d'avoir.
Non, c'est sûr. Et donc, le reste, à chaque fois que tu déménages, que ce soit à Londres ou à Madrid, t'as dû racheter des meubles, t'as dû racheter des fringues, t'as dû racheter...
Du coup, comme je vis en coloc, racheter des meubles, ça n'a jamais été vraiment très utile. À part ici, dans l'appart où on est, où du coup, on est un petit peu serré, on a acheté des meubles juste pour mettre mes affaires. Mais non, ça n'a pas été... pas eu trop d'achats à faire extra.
Donc, c'est pas un si gros budget que ça? Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, changer de pays, c'est quand même...
Après, c'est apprendre à vivre avec, entre guillemets, le minimum. Parce que du coup, par exemple, chez ma mère, il y a 300 BD qui m'attendent. C'est pareil, j'ai laissé la télé là-bas. J'avais déjà du matériel de studio, des flashs, que forcément, je n'ai pas ramené. Chez mon père, il y a des fringues, il y a une platine vinyle avec plein de vinyles.
Ah oui, donc ça t'apprend une sorte de détachement matériel, en fait, quoi. C'est un truc très presque zen bouddhiste, tu vois, genre...
Un petit peu, mais du coup, tu te rends compte aussi qu'on a cette habitude occidentale d'accumuler énormément. Et en vrai, j'ai racheté plein de choses, plein de petits détails, même si c'est des cadeaux ou des achats que j'ai fait moi. Maintenant, pour déménager, c'est super compliqué. Là, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Ça a été 10 allers-retours en voiture avec la voiture pleine à craquer.
Et c'est pas facile, le déménagement. Hein. C'est, quel que soit l'endroit, ça, de toute façon, c'est universel.
Est-ce que tu veux m'aider
à
faire un cours d'espagnol aux auditeurs français?
D'accord.
Alors,
on va s'allier.
Voilà. Christina, les auditeurs français t'écoutent. Quels sont les mots qu'on doit connaître quand on arrive à Madrid?
Joder. C'est le mot qui ont fait tous les mal. À Madrid, joder, mazo, que c'est.
Alors,
joder, c'est quoi? Comme putain.
Ah, d'accord, joder.
Joder.
D'accord.
Et tío.
Tío.
Tío, tía. C'est pour le. Comme tu dis.
C'est un truc de langage comme mec.
C'est cousin.
Mec.
Ouais, non, c'est, bon, c'est oui, mais entre collègues.
Oncle, mais du coup, ouais, c'est ça, entre potes, c'est un mec.
Ah, au lieu de cousin ou mec, on dit oncle.
Ouais.
Ok.
Ouais.
Des membres différents de la famille, mais ça marche aussi.
Mazo. Mazo. Quelque chose, mazo.
Quelque chose.
Mazo, c'est beaucoup.
C'est beaucoup, oui, mazo.
Mais c'est un vocabulaire d'ici de Madrid.
Oui, parce que normalement, on dit mucho. Mais à Madrid, c'est mazo.
En termes de paperasse, est-ce que toi, quand tu es français, tu dois encore des comptes à la France? Tu vois, là, tu es à Madrid depuis 5 ans. Est-ce que tu as des liens avec la France? Tu vois, je sais pas, tu dois remplir des trucs pour les impôts, j'en sais rien.
Non, j'ai fermé mes comptes bancaires et je me suis désinscrit des listes des impôts. Je sais pas comment tu appelles ça, cette liste-là. Je me rappelle plus du tout.
Oui, bah. Ah oui, tu n'étais plus déclarant fiscal, quoi.
Voilà, c'est ça, de la liste fiscale.
Okay.
J'ai fait une sorte de. Je pense que ça a marché. Hein. Enfin, je reçois plus de courrier.
Ils viendront te retrouver si ça n'a pas marché.
Non, enfin, je reçois plus de courrier. Voilà, mon adresse officielle en vrai en France, c'est chez ma mère, mais elle reçoit plus de courrier. Enfin, tout est réglé.
Tu dois garder une adresse en France? Non.
Non, bah au début, la première année, comme du coup, tu dois déclarer sur l'année passée.
Ah oui.
Et au début, j'avais encore mon compte bancaire en France, le temps de faire la transition. Mmh. Du coup, j'avais l'adresse chez ma mère. Et voilà, du coup, maintenant, tout est réglé.
Et par contre, tu votes à l'étranger? Tu es inscrit sur les listes électorales? Tu as tes bureaux de vote quand il y a les élections? Genre pour la présidentielle, est-ce que tu as voté?
Je pourrais le faire, mais ça, en fait, c'est comme en France. Faudrait que je m'inscrive sur les listes. Et ça, c'est une étape que je n'ai pas encore faite. Je ne sais pas si je me sens encore...
C'est-à-dire tu te sens trop éloigné de la France pour voter maintenant?
Ah, pour voter en France?
Oui. Non, je voulais dire pour voter en France, pardon, ouais.
Ah, non,
tu vois, les votes des Français de l'étranger, en fait, qui sont comptabilisés.
Ouais, du coup, c'est un peu une question de légitimité. Enfin, si j'ai quitté la France, c'est pas pour influencer ce qui se passe dans mon pays. J'ai pas cette intention... Je sais pas si c'est logique.
Bah c'est ton, je sais pas si c'est logique ou pas, mais c'est ton choix, ton point de vue, ça se défend. Après ça c'est donc ouais, d'ailleurs c'est intéressant. Tu te dis comme je suis plus dans le pays, c'est pas à moi de dire qui devrait être le président ou.
Bah oui, ça me paraît un peu logique. Comme tu vas pas décider de la peinture de ton voisin.
Donc toi, ça te semblerait plus sensé, par exemple, je sais pas si c'est le cas en Espagne, je connais pas du tout la législation, mais par exemple de voter pour le maire de Madrid ou.
Clairement. Oui, oui.
Ou les gouvernements locaux. Et ça, tu sais si tu peux le faire en fait? Je sais pas s'il y a des.
Je peux le faire. Il manque juste une étape. Faudrait que je m'inscrive ici sur les listes officielles.
Mais donc les étrangers ont le droit de voter, par exemple, sur les municipales ou des choses comme ça?
Après quelques années... Bon, après, c'est... Faudrait que je me renseigne un peu plus. Mais du coup, venant de l'Europe, c'est un peu plus simple. Les étrangers qui viennent d'Amérique latine, surtout ici, c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais je crois... Oui, c'est ça. Enfin, je crois qu'il y a une différence entre les votes de la mairie et les votes pour les présidents. Et du coup, il faut que je me renseigne.
À l'inverse, du coup, comment ça marche en Espagne? C'est-à-dire que t'es arrivé ici... Il a fallu que tu fasses des démarches pour pouvoir rester, je suppose, alors même si on est dans l'Union européenne, mais est-ce que tu as une carte d'identité? Est-ce que tu as quelque chose de particulier qui, quand tu te fais contrôler, par exemple, tu montres quoi?
Moi, je ne me suis jamais fait contrôler, mais ce qu'ils te demandent ici, ce qui n'est pas obligatoire si tu as ton passeport européen, ce qui m'a fortement été conseillé par une amie, ma petite copine avant espagnole, avant que j'arrive ici, c'était de sortir, de prendre mon numéro NIE, N-I-E, qui est un numéro d'identité pour les étrangers. Où ça, c'est un numéro qui te demande, moi, qui est très utile, qui te demande partout, dans les supermarchés, si t'as une carte club, si t'as besoin de t'inscrire.
En fait, ça, c'est un numéro que tous les Espagnols ont aussi ? Ou c'est juste les étrangers ?
Bah, le numéro NIE, c'est juste les étrangers. Ah, eux, ils ont leur numéro d'identité nationale.
Ok. C'est une petite carte, en fait. Hein. Ça ressemble à une petite carte de...
Bah, ce que j'ai moi, oui, c'est une petite carte. Il n'y a pas de photo dessus. Du coup, l'obligation, ce serait de présenter cette carte plus mon passeport où il y a la photo.
Et niveau démarche, à long terme, est-ce que tu dois demander la nationalité espagnole ?
Je pense que je le ferai, du coup, pour ne pas avoir à présenter cette double carte, le NIE plus le passeport. C'est vraiment demander la double nationalité pour avoir la carte espagnole qui... où il y a ton code, ton numéro d'identité qui vient, plus la photo. Du coup, c'est la seule carte à montrer.
À montrer. En parlant de manière plus, personnelle, mais est-ce que si tu demandais la nationalité espagnole, ce serait purement pour dire c'est technique et ça me permet d'avoir des papiers comme ça en règle et ça me facilite les allers-retours et la présentation sur place? Ou alors c'est aussi parce que tu dirais je me sens maintenant un peu aussi espagnol ou autant espagnol que français?
Non, vraiment pour se sentir espagnol, ce serait... Il aurait fallu que je parte beaucoup plus tôt, je pense. Il y a tout un bagage culturel qui fait que je ne peux pas me sentir espagnol aujourd'hui. Peut-être d'ici 20 ans, on verra. Mais c'est vraiment purement technique pour l'instant.
Avant que tu le rencontres,
ouais.
Est-ce que tu avais des clichés sur les Français ? Est-ce que des...
Bon. Non, beaucoup, parce que j'avais... J'étais en France deux fois quand j'étais 6 ans, 16 ans. Mais bon, un peu. Bon, j'ai les clichés de. Mais c'est pas un cliché, désolé, c'est la vérité. C'est France, il est parisien. Et c'est tout. Mais c'est une chose que j'ai. Comment est-ce? He vivido.
J'ai vécu.
Parce que j'étais là et les Parisiens ne sont pas très gentils.
Pourquoi ils ont été...
Parce que je crois que c'est une chose de la bourgeoisie ou l'argent ou les serres de grandes. C'est comme quand tu vas à Madrid et tu vas les quartiers plus riches. Que si tu n'es pas comme très cool, tu es quand même, tu n'es ici. C'est en Barcelone, je sens une chose pareille. Parce que Barcelone a beaucoup de bourgeoisie aussi. Et le reste de l'Espagne a. Desecho? Disuelto?
Dissous?
Tu as dissous un peu cette sensation de. On a les riches et on a les pauvres, c'est tout, et on a les différents quartiers. Mais le sentiment de la bourgeoisie qui te regarde mal, c'est différent.
Donc ça, à Paris, oui, alors?
Oui, un peu. Et quand je ne parlais très, très bien le français, mais j'essaye. Il me regardait comme un... Pourquoi ça, tu ne sais pas? Et tu, c'est pas, tu parles espagnol? Non, non, à la merde. J'essaye.
Est-ce que c'est une question de merde si je te dis, mais alors quand est-ce que tu rentres en France? Parce que c'est ce qu'on demande à tous les expatriés quand on habite en France. On se dit, oh, mais comment il fait pour être ailleurs? Est-ce que c'est une question pourrie?
Bon, non, c'est pas une question pourrie. Bon, il y a des gens qui aiment bien l'expérience de vivre à l'étranger, mais qui se voient pas passer toute leur vie là-bas. Moi, vraiment, j'ai trouvé un style de vie et une ambiance qui me convient. Du coup, je pense pas revenir, et encore moins sur Paris.
Il y a des fois quand même où tu t'y penses avec nostalgie, où tu vois, tu te dis, voilà, il y avait tel truc que j'aimais bien. Alors, visiblement, pas Paris, ça a l'air de t'avoir marqué négativement. Mais il y a des trucs, tu vois, des fois, peut-être qui te manquent par rapport à la France, ou pas du tout. Il n'y a jamais de nostalgie, tu vois, t'es dans le présent et t'avances.
Bon, en vrai, la vie professionnelle en France est un peu plus simple. J'ai l'impression qu'on a plus de droits, même si c'est pas vrai, mais sur la pratique, il y a des différences. Les salaires sont quand même meilleurs en France. Après, le niveau de vie est pas inférieur ici, mais du coup, pour tout ce qui est gros achats, avoir un bon salaire, ça aidait un petit peu. Je sais pas comment expliquer ça. Parce que du coup, en vrai, j'ai le même niveau de vie qu'à Paris en gagnant deux fois moins. Mmh. Mais c'est vrai qu'avoir cette sécurité de l'emploi qu'il n'y a pas trop ici, il y a plein de gens qui se font embaucher au black. C'est une ambiance laborale un peu particulière. Et c'est la seule chose qui me manque un petit peu de la France. C'est cette partie professionnelle qui est un peu plus claire. Enfin, j'avais un futur un peu plus ensoleillé, tracé en France. Mmh. Et ici, je vois, au niveau de l'avenir, je suis un peu dans le flou encore.
Mmh. Oui, c'est plus, en effet, le monde du travail un peu plus cadré, quoi, si je comprends bien, en France par rapport à l'Espagne.
Oui.
Tu gardes beaucoup de contacts avec la France, vraiment en mode appel, visio, etc. Est-ce que tu gardes beaucoup de contacts avec des gens en France? Est-ce que tu parles régulièrement avec la France? Ou même, d'ailleurs, suivre les infos ou des choses comme ça, tu vois?
Ouais, j'ai jamais vraiment été... J'oublie personne. Quand quelqu'un rentre, c'est un peu cucu, mais quand quelqu'un rentre dans mon cœur, il n'en sort pas. Du coup, je pense toujours un petit peu à tout le monde. Mais je suis pas très invasif, ça se dit ça
comme... Intrusif, ouais.
Intrusif comme personne. Du coup, j'aime pas prendre autant de nouvelles et j'ai l'impression de gêner toujours. Mmh. Et du coup, j'appelle pas grand monde, les amis. Donc, je vois un petit peu comment ça évolue sur Instagram, sur Facebook... Et du coup, quand je vois qu'il y a des... S'ils ont des soucis, je prends des news ou je souhaite les anniversaires, bonne année. Mais je ne suis pas très appel. J'aime pas donner des nouvelles de moi, déjà. Du coup, j'appelle pas pour raconter ce qui se passe ici.
Mais ça reste quand même dans ton cœur, de ce que tu dis un peu.
Oui, oui. Et j'appelle... le plus souvent, c'est ma mère une fois tous les deux mois. Enfin, voilà, c'est pas...
Oui, non, mais après, voilà, chacun a sa manière de vivre, mais c'était vraiment pour savoir si tu avais un contact vraiment, encore une fois, même je te disais, niveau actu, tu vois, est-ce que tu te tiens au courant de ce qui se passe, je sais pas, politiquement, ou même des choses comme ça, quoi. Est-ce que ça t'intéresse encore, ou est-ce que tu es dans ton lieu de vie actuel, et comme tu disais, ce qui se passe en France se passe en France?
Non, bah, les actus, je me suis mis à écouter un petit peu depuis la guerre en Ukraine, parce que du coup, les news françaises me paraissaient plus qualitatives qu'ici. Et du coup, par conséquence, je me suis mis à écouter un petit peu ce qui se passait, ce qui se passe en France. Tous les matins, quand je prends mon petit déjeuner, j'écoute France Inter ou France Culture.
Merci.
Por números, este es como sangría. Este la que lleva
Chardonnay.
Sí. Este lleva frisante, vino blanco frisante. Mira lo bien, cuál te gusta y me lo.
Picante. Oh my God.
Y un perdón. Elle va tomar un cheesecake, por si tú necesitas más tiempo.
Sí, una
para...
tapa de cheesecake.
Sí, sí, en un, una cerveza sin alcohol,
sin alcohol,
por favor.
Sí.
Ay, qué tierno.
¿Cómo?
Sí, bien.
J'essaye.
Tu es très mignon. Mais tu as étudié espagnol à la lycée ou non?
Non, ah, bon. J'ai fait allemand.
Je me demandais, quand tu t'expatries, tu vois, toi, tu l'as vécu plusieurs fois, du coup, Londres, Madrid. Est-ce que tu as encore ce truc de dire... parce que tu disais, je me sens pas espagnol parce qu'il faudrait que je sois là depuis longtemps, que j'ai vraiment le bagage culturel, etc. Donc toi, est-ce que tu as toujours ce truc de dire la France, c'est chez moi? Ou est-ce que tu te dis maintenant Madrid, c'est chez moi? Ou alors partout, c'est chez toi et c'est selon là où tu habites? Tu vois, est-ce que tu as ce truc-là de cœur
Moi, je suis très tatouage. Il y a un tatouage que je voulais me faire tatouer. Et du coup, ça résume un petit peu ce que je pense. Il y a un chanteur argentin qui s'appelle Facundo Cabral, qui a une chanson qui s'appelle Je ne suis pas d'ici et je ne suis pas de là-bas non plus. Mmh. Et du coup, c'est quand je reviens en France, je sens que j'ai perdu mes marques, que j'ai plus ma place là-bas. Mmh. Et ici, j'ai pas encore les miennes non plus. Du coup, je suis un peu un vagabond.
Et ça, toi, tu le vis comment? De manière joyeuse ou de manière triste? Parce que ça peut paraître les deux, quoi.
J'ai l'impression que ça peut me peser de temps en temps, cette impression d'avoir perdu quelque chose. C'est plus par... je sais pas si c'est de la peur ou de l'angoisse. Ou quand tu perds quelque chose, tu as toujours cette nostalgie, en vrai... je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment une sensation étrange. Ouais, bah du coup, tu peux te sentir un petit peu perdu. Et du coup, ce qui me manque ici, ce serait vraiment de m'asseoir de façon un peu plus définitive avec, en ayant un appart à moi. Et vraiment, ce serait l'étape où je regagnerais mes repères. Sans ça, bah, je suis encore dans cette étape un peu adolescente dans mon voyage, où je cherche un petit peu ce que je vais faire, où je suis pas sûr de l'avenir.
Est-ce qu'une fois qu'on a commencé, parce que donc tu as cet avenir, tu le dis, tu vas t'installer petit à petit aussi dans cette villa, avoir ton propre appart, la vie familiale, etc. Mais est-ce que quand même ces expériences-là, même si tu es encore dans une étape intermédiaire, ça ouvre encore plus l'esprit ? C'est-à-dire que s'expatrier, voir un pays, voir un autre pays, en l'occurrence, t'en as fait deux, ça permet en fait d'ouvrir l'esprit encore plus.
Globalement, ces deux voyages, je suis pas sûr que ce soit le cas, même si ça aide à comprendre un petit peu ce qui se passe habituellement avec les mouvements migratoires, et ça te permet d'être un petit peu de perdre cette éducation qui peut être un peu raciste, qui est complètement raciste dans tous les pays. Hein. Enfin, tout le monde est très nationaliste, hein, au final, quand on analyse les livres d'histoire. Cette éducation nationaliste, qu'on le veuille ou non. Et du coup, ça te permet de t'ouvrir un petit peu, mais pas autant que... je suis resté dans des pays très proches, très européens. Mais par exemple, ça ne m'a pas autant ouvert que mon voyage au Mexique. Que c'était juste des vacances, mais du coup, connaître des gens là-bas et vraiment être perdu dans une culture complètement différente, c'est vraiment, je pense, qui t'ouvre un petit peu plus au monde.
Parce que, mine de rien, se confronter à des modes de vie différents, même proches, mais l'Angleterre ou l'Espagne sont quand même un petit peu différents, c'est quand même un petit peu enrichissant aussi, quand même, non ?
Ah non, mais non, clairement, c'est juste, c'est pas en termes de degré d'ouverture. Je pense que ça se fait de façon beaucoup plus tranquille, plus...
Question traditionnelle, pour terminer l'émission. Je suis un Français, et en l'occurrence, tu peux faire comme si tu me le disais à moi, parce que je ne me suis jamais expatrié. Je te dis, j'ai envie de m'expatrier. C'est quoi le premier conseil que tu me donnes ? Quelle erreur je ne dois pas faire, par exemple ?
Je ne sais pas s'il y a des erreurs à ne pas faire, mais préparer un minimum son voyage en sachant où tu... je ne sais même pas, en fait... Elle est chiante, cette question. Dans les deux cas, j'arrive pas à répondre, quoi.
Non, mais c'est vraiment le.
Parce que du coup, c'est propre à chacun. Je sais pas s'il y a des erreurs à faire ou pas. Enfin, l'erreur.
Mais je crois que c'est parce que tu cherches trop loin. Moi, je te demande juste. Je te dis, j'en ai envie, mais j'ose pas.
Non, mais ça, si tant qu'il y a pas de danger, il y a pas d'erreur à faire. L'erreur est intéressante aussi. C'est comme en Angleterre, entre guillemets, j'ai fait des erreurs. Elle est intéressante à vivre. Mais non, c'est ça. C'est juste se lancer, ne pas avoir peur, se renseigner un petit peu et y aller, quoi.
Et ben, c'est parti. Alors, merci beaucoup.
De rien.
Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même, Alain Mattei. Vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes de podcast. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, rien de plus simple, laissez une évaluation et un commentaire sur votre appli de podcast. C'est gratuit et ça aide pour la promo. Et évidemment, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez suivre l'émission sur Twitter, Instagram et Facebook. Les comptes, c'est @occupationpod. À très bientôt pour un nouvel épisode et on sera encore en Espagne.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.